20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est un instrument exceptionnel que nous découvrirons ce soir, un violoncelle vénitien du 18e, du grand luthier Pietro Guarneri, conservé dans les collections du Musée de la Musique à Paris et dont Raphaël Pidoux nous révèle les si belles couleurs dans un enregistrement sorti cette semaine chez Harmonia Mundi. Raphaël Pidoux qui sera à cette occasion notre invité ce soir. Le temps de jeter un coup d'œil sur les dernières nouvelles du monde musical, un monde musical encore dans le flou, après la conférence de presse de Jean Castex hier, à laquelle participait Roselyne Bachelot. La situation est trop dégradée et trop instable pour envisager une date ferme de réouverture des lieux culturels, a déclaré la ministre de la Culture, tout en rappelant que les répétitions, tournages et captations de concerts sans public sont toujours autorisées. Les concerts se poursuivent donc en ligne et certains orchestres témoignent d'une intense activité. C'est le cas notamment de l'Orchestre National de Lille qui retrouvera demain à 20h son Audito 2.0, à savoir l'auditorium du Nouveau Siècle pour une captation pour le digital. Et c'est Alexandre Bloch qui dirigera ses musiciens dans la Symphonie d'Ernest Chausson et dans le premier concerto pour orgue de Thierry Esquèche. Vassili Petrenko, qui entame sa dernière saison comme chef principal du Royal Liverpool Philharmonic Orchestra et qui débutera en août prochain dans ses fonctions de directeur musical du Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Vassili Petrenko vient d'être également nommé directeur artistique de l'Orchestre Symphonique Académique d'État de Russie, autrement connu sous le nom d'Orchestre d'État Svetlanov, et cela à compter du mois de septembre. Il succédera ainsi à son compatriote Vladimir Yurovsky, qui lui prendra la direction musicale en septembre prochain de l'Opéra d'État de Bavière et succédera à un autre Petrenko, Kirill de son prénom. La nomination de Vassili Petrenko concrétise cette étroite collaboration qu'il a su nouer avec l'orchestre d'État Yevgeny Svetlanov, un orchestre avec lequel le chef entend mettre particulièrement en avant la musique russe, comme le rapporte Philippe Gau dans son article publié sur le site de Radio Classique.
Thank you.
Une romance de Rachmaninov arrangée pour orchestre par le Philharmonique Royal de Liverpool, dirigée par Vassili Petrenko. Vassili Petrenko, tout juste nommé à la tête de l'orchestre d'État Yevgeny Svetlanov.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Notre invité ce soir, le violoncelliste Raphaël Pidou, membre du trio Wanderer, professeur au CNSM de Paris, cofondateur et directeur artistique de cette formidable association Talent et Violoncelle, un musicien délibérément tourné vers la transmission, vers les jeunes et vers le monde de la lutherie, passion qui l'a conduit à s'associer à cette série Stradivari du label Harmonia Mundi, qui met à l'honneur des instruments de la collection du Musée de la Musique à Paris. Vient ainsi de paraître un album dédié à deux magnifiques instruments du musée, un violoncelle Pietro Guarneri de Venise datant de 1734 et puis un piano Gebauer de 1855, deux instruments joués ici par Raphaël Pidou et Tanguy de Villancourt. Des instruments qui n'avaient que très rarement été confiés à un interprète, comme nous le raconte ce soir Raphaël Pidou.
Ce violoncelle, en particulier le Guarnerius, c'est vrai qu'il n'était pas forcément jouable. Il avait été parcouru par, j'imagine, des gens proches du musée, alors que, comme Christophe Coin, comme des violoncellistes, donc comme Philippe Muller. Et c'est vrai que là, c'est la première fois qu'on soit donc un enregistrement, une sortie de disque avec cet instrument. Et je dois dire que c'est un événement, parce que c'est un instrument inouï. Très rare, il y en a je crois 7 dans le monde, des Guarnerius de Venise, et celui-là est vraiment magnifique. Alors c'est vrai que c'est un risque, puisque c'est un instrument qui passe plus de temps derrière une vitrine que sous les doigts d'un violoncelliste, donc on se dit, est-ce qu'il va sonner ? Ouais. Et finalement, eh bien, avec la magie des luthiers qui s'occupe de la collection pour justement les préparer au concert en interne dans l'amphithéâtre du musée ou pour des enregistrements comme celui-là, eh bien voilà, font tout pour que la magie opère et que le musicien et l'auditeur puissent se régaler.
Et qu'est-ce qui rend cet instrument si exceptionnel ? Il nous renvoie à l'âge d'or de la lutherie vénitienne.
Voilà, ces luthiers là de cette période-là avaient des bois fantastiques, souvent coupés depuis plus d'un siècle, et il y avait un temps de séchage aussi, on prenait beaucoup de temps. C'est une période qui était unique dans l'histoire de la lutherie. Et Guarnerius de Venise en a construit très peu, il en reste très peu. Je peux vous dire que cet instrument, quand on l'a dans les mains et quand on le fait résonner, quand on le joue, c'est un bonheur total. Thank you.
C'est la musique de Beethoven que vous avez enregistrée, Raphaël Pidou, sur cet instrument vénitien, ce Guarnieri, qui appartient à la collection du Musée de la Musique. Vous êtes aux côtés du pianiste Tanguy de Villancourt, qui lui aussi joue sur un instrument du Musée de la Musique, et vous avez enregistré ensemble les deux premières sonates, l'opus 5 de Beethoven. Alors Tanguy de Villancourt joue sur un instrument plus récent que votre violoncelle et de facture allemande, puisque c'est un instrument de 1855 de Gebauer. Comment s'est fait l'association entre vos deux instruments? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de les réunir ensemble, de les faire sonner ensemble?
Mais déjà, ce sont les hommes qui vont bien ensemble. C'est-à-dire qu'on a... Tanguy est tout jeune, mais je l'ai connu en tant qu'élève ensemble en résidence au Festival de la Roque d'Anteron. Ouais. Voilà, donc j'ai vu en lui, il y a quelques années déjà... une dimension musicale et une souplesse extraordinaire, et donc il joue très souvent d'ailleurs avec Bruno Philippe, hein, qui est un de mes anciens élèves également, et donc à partir du moment où on s'entend bien, les artistes, après les instruments, j'allais dire, ça marche tout seul, voilà. Disons que là, ce qui se passe, c'est qu'on a choisi l'instrumentarium correspondant, c'est-à-dire on a choisi un son d'instrument qui n'est pas le Steinway moderne, si vous voulez, un son d'instrument donc bien particulier, qu'il y avait certainement à l'époque, etc. Bon, bien que cet instrument-là, finalement, il a 100 ans ou 200 ans de plus, évidemment qu'il ne sonne pas comme il y a 200 ans, voilà, parce que même les pianos évoluent, mais celui-ci est très bien restauré, alors vous entendrez un tempérament, c'est pas qu'on joue faux, c'est que le tempérament, l'accord est également particulier, donc il y a des éclairages, les sixtes, les tierces, enfin, tout n'est pas forcément, entre guillemets, juste pour l'oreille moderne, mais je pense que ça donne aussi une couleur intéressante pour ces œuvres-là. Et le violoncelle est équipé de cordes en boyau, et donc qui permet effectivement une chaleur particulière, une espèce de d'entrelacement harmonique et qui fait corps avec le piano. Il y a une homogénéité parfaite. Souvent, on dit le violoncelle, on l'entend pas avec le piano moderne, etc. Alors, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, mais là, vraiment, il y a une harmonie et une homogénéité assez bluffante. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand on n'entend pas le violoncelle, quelquefois, c'est normal parce que c'est la volonté du compositeur également.
Mais on apprécie les couleurs de ces instruments que vous jouez, Raphaël Pidou, avec Tanguy de Villancourt, des couleurs, un équilibre sonore, un univers sonore auquel on est moins habitué, ce qui permet d'apporter aussi un autre éclairage sur la musique de Beethoven, ce qui permet de faire sortir de votre instrument justement des sonorités qui pour vous aussi sont, j'imagine, inhabituelles. C'est un plaisir particulier d'aller rechercher d'autres sons, d'autres expressions aussi, d'autres phrasés.
Exactement, et surtout ce qui compte quand on est musicien, mais quand on est bien vivant aussi, je pense, c'est l'expérience. Rien ne remplace l'expérience. Donc là, on a eu une opportunité magique grâce, comment dirais-je, la volonté commune du musée et d'Harmonia Mundi, la maison de disques, de faire revivre quelque part cette collection magnifique. Hein, ce sont des trésors nationaux, au même titre que les grands tableaux dans les Orsay au Louvre ou je ne sais où. Et je pense que c'est une idée superbe, ouais. Tout simplement, de faire vivre cette collection de cette manière-là. Jadis, Anner Belsma avait enregistré sur un Stradivarius magnifique de la Smithsonian Museum à Washington. Voilà. Et je pense que c'est les instruments, malgré le fait qu'ils doivent rester effectivement dans les murs du musée pour, disons, éclairer les générations futures sur ce qu'on savait faire à l'époque, etc. Ce sont des instruments qui ne vont plus voyager avec le musicien et donner des concerts. Alors, on peut être assez triste de cette situation-là, mais ce n'est pas la volonté du musée, oui, et des conservateurs. Voilà, c'est l'histoire, c'est comme ça. Et je pense que c'est très important, par contre, de faire vivre le musée, et cette opportunité-là est magnifique.
De faire vivre ces instruments, puisque un violoncelle ou un violon, lorsqu'il n'est pas joué, il est souvent, on dit en tout cas, qu'il est endormi et que l'on doit ensuite le réveiller. Il y a des tas de belles histoires qui circulent autour d'instruments. Est-ce que vous avez dû, Raphaël Pidou, également réveiller ce violoncelle?
Alors, ce violoncelle avait encore toute sa flamme, parce qu'il est très bien entretenu, malgré tout, évidemment. Vous savez, il y a des conditions drastiques pour, dans les musées pour...
Mais il y a les vibrations dont ils ont besoin.
Alors voilà, exactement. Donc à partir du moment où on avait trouvé le bon réglage avec le luthier qui travaille de concert avec le conservateur, d'ailleurs j'ai été sollicité pour vérifier que tout ça marchait très très bien, et moi ça, c'est vrai que ça m'intéresse, je me suis toujours intéressé beaucoup à la lutherie, et bien j'étais complètement rassuré. Voilà, c'est le montage aussi particulier qu'on a surveillé, l'équilibre entre les cordes, la tension des boyaux, etc. Cet instrument supporte à merveille, il est dans un état exceptionnel, hein. C'est vraiment un des plus beaux instruments que j'ai vu, sans compter le vernis, les flammes dessinées sur la table et sur le fond. Dès que le musée rouvre, je conseille au public d'aller voir le musée et en particulier cet instrument.
On a tous envie d'aller le voir maintenant. Sur ce magnifique instrument, ce violoncelle de Pietro Guarneri, qui appartient à la collection du Musée de la Musique, vous avez enregistré Raphaël Pidoux avec Tanguy de Villancourt, les deux premières sonates de Beethoven, mais aussi un nocturne composé par Camille Pleyel et Charles-Nicolas Baudiot, nocturne sur des thèmes de la flûte enchantée. Camille Pleyel, Charles-Nicolas Baudiot, ils étaient pianistes et violoncellistes français de l'époque romantique. J'imagine qu'ils s'intéressaient beaucoup, en tout cas Camille Pleyel, on le sait, à la facture instrumentale.
Oh, certainement. Et il faisait avancer les facteurs de piano et les luthiers. On voulait toujours plus. Hein. Ouais. On voulait toujours, mais on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Il faudrait trouver une mécanique différente, etc. Et c'est toujours l'actualité, en fait. Les luthiers modernes que je rencontre veulent toujours améliorer les choses, même si on se base sur, effectivement, cette période d'or de la lutherie du XVIIIe siècle qui est fantastique. On veut toujours amener quelque chose. Et aussi, on a la place pour que chaque luthier puisse trouver sa place et sa patte. Voilà.
Et les luthiers, vous les connaissez bien, Raphaël Pidoux, notamment dans le cadre de votre association Talents et Violoncelles, qui a fêté ses 10 ans et qui, je le rappelle, fait construire des instruments, des violoncelles, et même il y aura maintenant, je crois, des violons et des altos, pour les prêter à de jeunes musiciens. 10 ans de Talents et Violoncelles, et combien d'instruments construits grâce à l'association?
Alors écoutez, on les compte et on les recompte, comme disait le Petit Prince, par rapport aux étoiles. Et donc les étoiles, c'est infini. Donc j'espère qu'il y aura des violoncelles et des violons et des altos à l'infini. On en a 53 déjà. Quand j'étais venu vous voir il y a 10 ans, on en avait un. Et je vous assure qu'on a des mécènes qui se bousculent maintenant et qui veulent nous accompagner dans des idées. On a des idées multiples. Et pour accompagner nos jeunes talents, alors on choisit des jeunes déjà qui sont dans le besoin, c'est-à-dire que vous savez que pour se financer un instrument, c'est quand même compliqué, voilà. Donc on trouve des solutions et puis on les accompagne aussi dans leurs études et puis on les aide dans le début de leur carrière.
Et vous sentez de la part des mécènes un engagement peut-être encore plus fort en cette période si douloureuse que nous traversons et qui fragilise d'autant plus les jeunes musiciens. Vous les sentez fidèles, vous sentez leur envie de vous soutenir peut-être encore plus aujourd'hui?
Très attentif, oui, exactement, mais je pense que les mécènes qu'on a côtoyés, c'est une vision à long terme. Mmh. Donc il y a aussi cette espèce de longue croisière. Et moi, ça me va tout à fait parce qu'un jeune doit savoir patienter. La carrière ne démarre pas comme ça tout d'un coup. Et puis, nos carrières de musiciens sont des carrières longues. Voilà. Et la vie d'un violoncelle est longue aussi. Vous voyez, avec Guarnerius, 1734, il sonne merveilleusement en 2020. Donc c'est fabuleux quand on raconte ça à nos mécènes. Parce qu'ils se rendent compte que c'est magique, qu'il y a vraiment une pérennité absolue. Alors évidemment, c'est aussi un placement, mais c'est en même temps une valorisation du patrimoine culturel qui est gigantesque.
Voilà, et puis Talents et Violoncelle, qui ne manque pas d'initiatives, lancera l'année prochaine, dans un an tout juste, en janvier 2022, un concours de lutherie, c'est ça, Raphaël ?
Exactement. Il y avait jadis le concours de la ville de Paris, le concours Étienne Batelot. Et puis, j'avais aussi, il y a quelques années, avec le CRR de Paris, monté les journées du violoncelle, violoncelle en scène. J'avais inséré dedans un concours de lutherie qui avait remporté un franc succès. Et j'ai proposé à la Philharmonie et au musée de continuer l'histoire et de réinventer en fait un concours international. Alors, on a été reçus avec le tapis d'or, je ne sais pas comment on dit, à la Philharmonie. Et je suis très heureux, très fier de pouvoir organiser ça avec eux, coproduire avec eux et l'ensemble de mon association. J'ai une équipe magnifique et c'est un régal parce que là on se réunit donc avec le Zoom là, vous voyez, le Teams, je ne sais plus.
Ouais.
Et on est là, on bout d'impatience. On a déjà une quinzaine d'inscrits pour le concours. Ça va être un événement mondial en fait. Hein. On a aussi fait deux concours dans un, c'est-à-dire qu'on invite aussi les jeunes de toutes les écoles de lutherie dans le monde à venir participer à ce concours. Et puis il y aura les luthiers vétérans, alors ceux connus, ceux moins connus, en tout cas les luthiers établis qui participeront également à ce concours. C'est une fête de la lutherie et du violoncelle. Voilà.
Bah une grande fête qui aura lieu dans un an, janvier 2022. Normalement, tout ira bien l'année prochaine. Merci beaucoup. Un petit mot peut-être sur le trio Wanderer.
Oui, c'est trio ça. Wanderer. Oui. Écoutez, on hiberne.
Vous qui êtes sans arrêt sur la route d'habitude.
Tout va bien. On a enregistré un disque en octobre dernier, oui. L'intégrale Schumann, qui sortira bientôt. Et puis
il y a eu ce magnifique Shostakovich qui est sorti en début de saison.
Voilà, exactement. Alors, écoutez, on est comme tous nos collègues, on patiente. Moi, je m'occupe de mes élèves, on s'occupe des élèves aussi dans notre classe de trio, et on a beaucoup de travail, finalement. Oui. Alors, écoutez, moi, je rêvais d'une année sabbatique, un jour, et je me disais, mais quand? Mais peut-être jamais, en fait, et puis, c'est arrivé quelque part.
Voilà, et ça repartira. Et puis, un petit mot aussi sur Gabriel Pidoux, qui a fait sensation aux Victoires de la Musique, et que l'on peut entendre dans un très beau disque avec le Consort. Ah. qui est sorti il y a quelques jours, Gabriel Pidou.
Mon fils,
vous devez être
voilà.
Bien fier, Raphaël.
Mon fils cadet, voilà, j'en suis très fier. Il est merveilleux et je pense que de voir cette jeune génération comme ça, avec comment dirais-je, manœuvrer avec talent dans tout ce microcosme musical, artistique, etc. Voilà, je suis très heureux. Et avec Gabriel, je pariais l'autre jour. Je me disais peut-être que il deviendra un homme politique tellement il est à l'aise sur scène. Moi, je me rappelle à son âge, je n'arrivais pas à parler au public. Vous voyez, d'annoncer le bis, pour moi, c'était, il fallait que j'y pense une semaine avant. Et voilà, toute cette génération là, ils sont tellement à l'aise avec déjà les moyens de communication aussi. Et je trouve ça magnifique. Et puis on a l'occasion de jouer ensemble aussi. Et ça, je dois dire que c'est assez extraordinaire de jouer avec ses propres enfants. Et donc j'ai une pensée pour mon père, puisqu'il y a 3 générations de Pidou maintenant. Voilà.
Et oui, ça continue. En attendant de vous entendre peut-être un jour au disque ou sur scène avec votre fils Gabriel Pidou, on peut profiter de ce magnifique enregistrement. Vous êtes aux côtés d'un magnifique jeune pianiste que l'on adore, nous aussi à Radio Classique, Tanguy de Villancourt. Cela vient de paraître chez Harmonia Mundi et vous êtes tous les deux sur 2 instruments de la collection du Musée de la Musique, autour notamment de l'œuvre de Beethoven. Merci beaucoup Raphaël Pidou.
Merci à vous. Thank you.
Quelques-unes des variations sur bei Männern welche Liebe fühlen de Beethoven, variations sur des thèmes de la flûte enchantée de Mozart, donc, par Raphaël Pidoux et Tanguy de Villancourt sur ces deux magnifiques instruments appartenant au Musée de la Musique à Paris. Un nouvel extrait de ce superbe album tout juste sorti chez Harmonia Mundi. Quant au oboïste Gabriel Pidoux, vous pouvez le retrouver dans ce tout aussi superbe album Royal Handel aux côtés du consort et des Vasaïchik, un album dont nous avons parlé justement la semaine dernière. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Torre-Lassalle pour sa réalisation. Lundi, c'est avec William Christie que nous passerons un petit moment pour parler de cette production de Titon et l'Aurore de Mondonville qu'il dirigera mardi à l'Opéra Comique et en direct sur Medici TV. Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, en compagnie de Francis Drezel.